Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. L'invitée de cette semaine est Julia Bijaoui, cofondatrice et CEO de Frishti, une entreprise de la food tech qui réinvente le bien manger en version pratique et rapide. Dans cet épisode, Julia nous partage son parcours, les enseignements qu'elle a tirés de ses expériences avant Frishti et de ce qui l'a poussée à se lancer dans un projet qui a pour ambition de révolutionner le secteur de l'alimentation grâce à la tech. Julia nous partage sa vision de l'entrepreneuriat, à savoir partir d'un problème qu'on vit personnellement, d'un besoin qu'on aimerait satisfaire et de réfléchir à comment le résoudre, et ensuite la meilleure façon de mener ce projet à bien, à savoir en commençant par la vision et l'ambition finale qu'on a du projet et de dérouler toutes les étapes qui peuvent nous permettre d'y arriver. À la tête de Frishti depuis maintenant presque 5 ans, Julia nous partage aussi les conseils qu'elle aurait aimé savoir avant de commencer, ce qu'elle met en place pour continuer à progresser, aussi bien pour elle-même que pour sa boîte, et comment le rôle de CEO évolue avec les différentes phases de croissance d'une boîte. Vous l'aurez compris, cet épisode est une vraie dose d'inspiration, truffée d'outils et de conseils pratiques qui pourront vous aider dans votre vie et pour vos projets. Si vous appréciez InPower, le meilleur moyen de me le faire savoir est de laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et quelques lignes sur pourquoi vous appréciez l'écouter. Je remercie aujourd'hui la personne qui a laissé le commentaire sous le nom de Unique Podcast et qui a rédigé l'avis suivant. J'écoute InPower depuis plusieurs mois et je n'avais jamais écrit un commentaire par ici, alors que je sais pertinemment que les retours sont très importants pour les créateurs de contenu. J'aime beaucoup les invités et la variété des thèmes abordés. J'aime aussi avant tout ce que tu dégages, Louise, et les messages que tu portes sur les réseaux sociaux. Merci de nous faire réfléchir et de nous faire connaître différents parcours enrichissants. Merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de laisser ce commentaire. En effet, les retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, tant qu'ils sont constructifs, nous aident beaucoup et nous permettent de continuer à partager le meilleur contenu possible. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre maintenant ma conversation avec Julia. Bon bah écoute, bonjour Julia.
Bonjour Louise.
Bienvenue sur InPower, je suis ravie de te recevoir. Ma première question pour les invités que je reçois, c'est toujours de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
Donc, j'ai 31 ans, je suis maman de 2 filles, de 3 ans et demi et de 8 mois, et d'un troisième bébé qui s'appelle Frishti, que j'ai cofondé il y a 5 ans avec donc Quentin, mon associé et mon amoureux dans la vie. Donc, ensemble à la ville comme au bureau, et voilà, et on est passionnés par notre projet qu'on a initié il y a 5 ans autour de bien manger, de comment on reconnecte les gens avec une alimentation saine, transparente, authentique. Et je suis ravie d'être là pour partager un peu tout ça avec toi.
Trop cool. Comment tu t'imaginais à 30 ans quand tu étais enfant?
Alors, je m'imaginais actrice ou archéologue et ou patronne d'agence de voyage, en train de designer des voyages. Donc, certainement pas
entrepreneur.
Enfin, si, en fait, je dis ça, mais en fait, je me suis toujours, en fait, vue avoir ma propre boîte, sauf effectivement sur ma carrière d'archéologue. mais j'ai des parents qui ont eux-mêmes une boîte ensemble. C'est aussi le cas de Quentin. Donc, finalement, on était fait pour travailler ensemble et être ensemble aussi dans la vie. Du fait d'avoir eu ce modèle, finalement, assez naturellement, je me suis toujours dit que je serais ma propre patronne, avec les avantages que ça comporte et les désavantages, parce que c'est loin d'être que des avantages. On peut voir ça comme une grande liberté. Mmh. En fait, je pense que c'est parfois un asservissement à ses propres contraintes, certes, mais tout de même un asservissement au succès, à la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Voilà, c'est un peu ancré dans la culture familiale et je me suis jamais trop vu faire autre chose. Et c'est un peu avec cette idée en tête, d'ailleurs, que j'ai un peu construit mon parcours de stage. Quand j'étais en école de commerce, j'avais vraiment ça en ligne de mire, me dire un jour je monterai ma boîte. Donc je vais aller me former en marketing, je vais aller me former en finance, parce qu'il faut un peu des deux pour pouvoir gérer une boîte, il faut être hyper polyvalent. Je suis quelqu'un d'assez intuitif, donc j'ai une vision pour les choses, pas du tout sur tout, mais en tout cas, entre autres, sur la nourriture. Et j'aime bien pouvoir mettre en œuvre mes idées et apporter des solutions à des problèmes que je trouve. Et cette créativité-là, voilà, je l'ai toujours eu, toujours senti dans des projets que j'ai menés, encore une fois, dans mes études. Ça, c'était toujours plus ce côté créatif qui me plaisait. Et donc, c'était assez naturellement que je me suis dit que j'allais créer ma boîte. Et ce que j'ai fini par faire au bout de 3 ans, puisque j'ai d'abord commencé par travailler dans une autre entreprise avant de lancer ma boîte. Ouais.
Parce que quand qu'on t'entre dans tes études supérieures, est-ce que tu avais déjà un peu comme objectif de monter ta boîte, même à la sortie, ou d'abord tu souhaitais faire tes armes dans des boîtes, sur différents secteurs, et du coup vers quel secteur tu voulais t'orienter? Parce que, ce que j'ai l'impression, je pense toi t'es un peu quand même la génération un petit peu avant moi, mais c'est vachement le cas aujourd'hui, j'entends beaucoup de personnes me dire « bon, un jour je vais monter ma boîte ». Et ma grande question, c'est pourquoi les gens attendent, tu vois, avant de... S'ils savent vraiment ce qui les fait vibrer, alors s'ils savent pas, je comprends déjà mieux, mais il y en a, ils savent. Mais il y a un peu, je pense, un manque de confiance en soi ou une peur de l'inconnu qui fait qu'ils vont repousser et souvent, du coup, ne jamais donner suite à leurs rêves. Donc je sais pas si toi, c'était ton cas et quelle était ta réflexion un peu à ce niveau-là.
Moi, j'ai failli me lancer juste après mes études parce que dans ma dernière année d'études, j'ai fait un master entrepreneuriat où les 6 derniers mois, on avait la possibilité en fait de travailler sur son propre projet, ce que j'ai fait, et puis à la fin de l'année, de se dire est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on se lance pas. Et j'ai été plantée au dernier moment par une de mes meilleures amies, qui a bien fait d'ailleurs, parce que bref, le projet, je pense, n'avait aucun avenir. Mais du coup, un peu prise par dépit, pour valider mon master, de toute façon, il fallait que je fasse un stage, ce qu'on appelle un stage bras droit, c'est-à-dire être bras droit d'un dirigeant d'entreprise, plutôt une petite boîte, pour aller... être au contact d'un entrepreneur et d'enjeux qui allaient peut-être aider un jour à monter une boîte. Et donc, c'est là que j'ai rencontré Quentin, puisque j'ai fait mon stage bras droit auprès de donc Quentin, qui était un jeune entrepreneur qui venait de créer Jolibox à l'époque, avec 4 autres associés. Et in fine, l'expérience m'a tellement plu. Cette boîte, non pas que je ne suis pas hyper intéressée par la beauté, mais... ce qu'elle avait mis en œuvre, la manière dont elle exécutait, et puis tous les enjeux qu'il y avait à développer aux côtés de Quentin et de son équipe de cofondateurs et son équipe de manière générale, m'ont passionné, m'ont donné envie de rester. Et donc je me suis dit, je vais pas... En fait, entreprendre pour entreprendre, moi je vois pas l'intérêt. On peut avoir une nature entrepreneuriale, mais il faut aussi avoir la bonne idée, la bonne équipe. Moi je me voyais pas du tout entreprendre seule. Et là je me suis dit, je suis aux côtés d'une équipe entrepreneuriale hyper talentueuse. Certes, c'est pas ma boîte, mais en fait, quand je suis arrivée, il n'y avait que 10 salariés, donc ça restait encore à une échelle où il y avait tout à faire et on se levait le matin, on avait vraiment de l'impact. Et j'ai eu vraiment l'impression de prendre part à une aventure sans en avoir en plus les risques initiaux. Donc finalement, c'était le parfait combo, ça s'est un peu fait comme ça. Et ça a été assez, assez génial rétrospectivement... Ça nous a beaucoup apporté avec Quentin d'avoir eu cette première expérience, lui en tant qu'entrepreneur et puis moi assez proche, avant de monter Frishti, parce que ça a permis d'aller beaucoup plus vite au début de Frishti, de lever des fonds plus facilement et puis même derrière d'avoir quelques premiers réflexes assez indispensables à ce que l'aventure dure.
Lui, c'était sa première boîte, Jolibox.
Ouais, c'était sa première boîte et je crois qu'il l'a lancée à 25 ans pour le coup. Lui, au bout d'un an et demi, il avait fait un an et demi en finance. Et puis, au bout d'un an et demi, il en a eu marre. Et...
il s'est dit, c'est pas pour moi.
Il s'est dit, c'est pas pour moi. Il a vraiment un tempérament très, très entrepreneurial. Il a rejoint l'équipe. Enfin, voilà, il a cofondé Jolibox avec 4 autres associés.
Et qu'est-ce qui a fait, du coup, qu'il et toi aussi, j'imagine, du coup, décider de quitter l'aventure Jolibox, qui était... quand même assez neuve, qui marchait déjà bien, pour lancer un autre projet. Je crois que toi, t'as fait autre chose entre-temps. Enfin, dis-nous, après cette expérience hyper enrichissante, pourquoi tu pars? Pourquoi lui part? Comment ça se passe?
En gros, moi, déjà au bout de un an après mon arrivée dans la boîte, fusionne avec Birchbox. Donc Jolibox devient Birchbox, fusionne avec une boîte américaine. Donc pendant les 2 années suivantes, on a beaucoup travaillé sur le développement international, la coordination avec les États-Unis. C'était très intéressant, mais ça avait déjà une dimension un peu moins entrepreneuriale et indépendante. Au bout de, 3 ans d'aventure chez Birchbox, moi, ce désir entrepreneurial me titillait. Et puis par ailleurs, j'étais passionnée de food et clairement moins de beauté, quoi. Donc le sujet m'amusait moins et j'avais envie en plus de prendre mon envol et d'aller monter mon projet. Je suis partie. En parallèle de quoi, en plus, on est tombé amoureux avec Quentin et on a décidé de se mettre ensemble. Donc il était plus trop question de travailler dans son ancienne boîte. On avait été collègues pendant 3 ans. Chez Frishti, au moins, on est ensemble depuis le début, donc les choses sont claires. Donc il y a eu aussi ça qui a tout s'est un peu aligné. Et à ce moment-là, du coup, je me suis dit, ok, bah, je veux entreprendre dans la bouffe. Bah, quoi de plus logique que d'aller monter un resto? Et là, du coup, pendant 6 mois, j'ai travaillé au lancement et conceptuel et opérationnel d'un resto-bar sur les quais de Seine.
C'est un vrai fantasme, j'ai l'impression, ça.
Ouais.
D'ouvrir un resto et de l'extérieur, et pour avoir discuté avec des restaurateurs, je mets un peu ça dans la même case que le droit, dans le sens où c'est des trucs, c'est des métiers vers lesquels les gens veulent s'orienter sans jamais l'avoir fait. Tu vois, le droit, on n'en a jamais fait à l'école, mais t'as des gens qui veulent étudier le droit et il y a beaucoup de désillusions. Et monter un resto, on a tous un peu une idée de ce que c'est. Et dans les faits, c'est hyper différent et souvent, il y a des désillusions aussi. Enfin...
Bah complètement. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé puisque moi, au bout de 6 mois, où j'ai énormément appris, puisque je gérais tout, franchement, des travaux jusqu'au recrutement des équipes, j'y étais 7 sur 7, de 9h à minuit. Vraiment, ça a été 6 mois hyper intenses. Et en fait, au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que c'était pas, j'étais pas faite pour ça, que j'étais pas forcément d'accord avec le développement que je voulais donner avec avec mon associé, qui lui finançait le projet, bon, qui avait clairement le dernier mot, et que in fine, là où je m'étais imaginée assez rapidement ouvrir plusieurs lieux, c'était pas du tout la manière dont, enfin lui, la manière dont il voyait les choses, la manière dont je m'étais organisée pour que ce soit possible, parce que je suis convaincue que bah un projet peut avoir de l'ambition uniquement si on l'a depuis le début et qu'on s'organise pour atteindre le but qu'on s'est fixé, mais si on avance au fil de l'eau, ça marche pas. Et donc, voilà. Et enfin, que ce métier opérationnel, qu'un restaurant, en fait, il vit en partie grâce à ses équipes, grâce au sourire des équipes et du patron, et à l'excellence opérationnelle de l'exécution et à l'atmosphère qui se dégage du lieu, et que ça, c'est beaucoup impulsé par les patrons de restaurants, et que c'était pas ce pourquoi j'étais faite. Donc je me suis retrouvée finalement dans un job où j'ai beaucoup appris, mais où je me retrouvais pas du tout dans ce que je voulais faire professionnellement.
Ouais.
Exactement ce que tu décris, quoi. C'est-à-dire que mes fantasmes se sont confrontés à la réalité.
Ouais. C'est pas trop dur, cette désillusion? Surtout jeune, quoi. C'est un peu le premier projet que tu lances seul. Parfois, on peut se dire, putain, 6 mois de perdu, alors que c'est jamais perdu.
Ouais. Et en fait, exactement. C'est très vite, j'ai plutôt tiré le positif. Et puis au bout d'un mois plus tard, j'ai commencé à travailler sur Frishti et sur l'idée et l'émergence du projet. Donc en fait, j'étais pas du tout... Enfin, il y a eu un peu un... Je suis partie en vacances en fait, je suis partie 2 semaines au Mexique. J'ai coupé complètement et en fait, j'étais super contente de ma décision. Je la trouvais saine, courageuse, j'étais hyper en ligne avec la décision que j'étais en train de prendre. C'était triste parce que j'avais investi beaucoup, beaucoup de temps et d'efforts. Mais pour autant, je me retrouvais complètement et je me disais que c'était complètement, pour le mieux, pour le lieu et pour moi.
Ouais.
Non, franchement, il y a eu zéro regret et au contraire, j'ai pu mesurer d'ailleurs au début de Frishti à quel point cette expérience m'avait apporté parce que au début, Frishti était également très opérationnel, même si on a eu toujours de grandes ambitions. Bah, j'étais au fourneau, au service client, à la livraison, enfin, j'étais un peu partout et donc, notamment sur la partie cuisine, le fait d'avoir pendant 6 mois géré une petite équipe de cuisine, c'était pas du tout la même échelle, mais voilà, ça m'a donné des codes et des clés pour comprendre, ne serait-ce que comment on fait des achats alimentaires. Voilà, ça m'a servi, ça m'a mis le pied à l'étrier sur une partie des activités de Frishti.
Mais c'est hyper important ce que tu décris, juste le fait de se sonder soi-même, et c'est quelque chose que m'a dit notamment Alisa Guéry, je sais pas si tu la connaissais,
ouais,
la fondatrice
The
de Family. Elle dit en fait c'est hyper important de se faire des check-up réguliers pour s'assurer qu'on est aligné avec soi-même. Et c'est vrai que c'est un truc, en fait, si personne nous le dit, c'est pas quelque chose qu'on a le réflexe de faire. Enfin, toi, du coup, quand même, t'étais assez jeune. Moi, c'est vrai que si elle me l'avait pas dit, je sais pas si je me poserais la question. Alors, aussi parce que je pense que je suis vraiment épanouie et alignée et que j'ai un peu créé mon propre métier. Mais sinon, je pense que beaucoup de gens peuvent se mettre des ailleurs parce que c'est plus facile. Et le fait de se faire un peu comme ça, un état des lieux, avoir le courage de le faire, parce que ça peut être difficile de se rendre compte qu'on n'est pas là où on veut, mais au moins après, on peut changer, quoi.
Ah, bah, complètement. C'est super important d'être honnête avec soi-même. Nous, un des premiers principes chez Frishti, c'est ce qu'on appelle ça le no-ego. Ça veut dire que ce soit vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ton travail, vis-à-vis du travail de tes pairs, la boîte n'avancera pas et tu n'avanceras pas si t'es pas hyper honnête avec les autres et avec toi-même en premier, évidemment, et que t'acceptes le feedback. Et donc, on peut dire ce qui a été fait la veille. En fait, c'était nul. En fait, on s'est trompé, etc. Et c'est ce qui permet d'avancer le plus vite possible dans la vie. Ouais. C'est vrai que de perdurer dans des mauvais choix, c'est facile à court terme, mais ça ne fait pas avancer à moyen terme. Ouais. Et c'est jamais une bonne décision exactement ouais. à long terme.
Ok, bon, alors du coup, tu reviens de ce voyage au Mexique, un peu d'introspection, et tu avais déjà l'idée de Frishti en tête, du coup.
Non, là, je me dis, bon, bah voilà, je vais pendant quelques semaines réfléchir. J'ai toujours envie d'entreprendre dans la food. Voilà, je vais réfléchir avec Quentin, m'aider hein, sur ses heures libres. Et lui me dit un jour, j'avais une idée, c'est un truc genre, on ferait le Picard du frais. Je dis, mais c'est quoi? Et voilà. Et en fait, on commence à creuser cette idée de fil en aiguille, à s'imaginer qu'en fait, toute l'idée de départ, c'était de se dire, on habitait ensemble, on prenait notre petit immeuble et on se disait, bon, nous, là, globalement, on mange mal parce qu'on a genre pas de temps, on n'a pas le temps le midi, c'est un mauvais sandwich à la boulangerie qui a 10 minutes à pied, et le soir, on n'a pas le temps d'entretenir un frigidaire, c'est-à-dire que dès qu'on fait des courses, on finit à la fin de la semaine par jeter le tiers de notre frigo, voire la moitié parce qu'en fait, on est sorti, parce qu'en fait, on avait mal prévu, etc. Ce qui est franchement un sentiment insupportable de devoir jeter de la nourriture.
Quand on est passionné.
Donc, on n'achetait plus rien. En fait, du coup, c'était soit on commandait, et à l'époque, commander, c'était des pizzas ou des sushis, il n'y avait que ça. Soit, donc, globalement, de la malbouffe. Et soit, finalement, on se fait des trucs à base de produits d'épicerie sec. Donc, c'était des pâtes au thon et aux olives. Donc, à la fin, on en a eu un peu marre. Bref, je pense que les meilleurs projets c'est entrepreneuriaux, c'est ceux qui partent de problèmes qui se produisent assez fréquemment au quotidien. Et on s'est dit, nous, on a un vrai problème pour se nourrir au quotidien, de produits frais, bien cuisinés, parce qu'on n'a pas le temps et parce qu'on n'est pas organisé pour. Et on est des gens qui venons du digital, qui avons l'habitude de prendre des problèmes et de les résoudre avec de la tech. Et quand on regardait, il n'y avait personne qui s'était vraiment attaqué au sujet de l'alimentation dans la tech. Voilà, il y avait plein de secteurs qui s'étaient digitalisés. Les fringues, les voyages, la beauté. Et puis l'alimentation, non. C'est encore un secteur d'ailleurs qui est très peu digitalisé. Bref. Et donc on s'est dit, designons le service idéal qu'on aimerait. Donc on s'est dit, si on était dans notre immeuble et qu'on avait un mec, on payait tout l'immeuble, le paierait, il va tous les jours à Rungis acheter des super produits. Il les cuisine dans sa petite cuisine qui est en bas de notre immeuble, là. Et puis, il dépose devant chaque porte son repas à chaque voisin. Et en fait, si on le mutualise à travers avec les 100 copropriétaires des trois immeubles autour de nous, on fait une cuisine de quartier et ça tourne. Et en gros, c'est venu un peu de cette idée-là, quoi. C'est de se dire, en mutualisant plein de gens qui, comme nous, ont ce besoin-là, en fait, on va acheter des meilleurs produits, on va pouvoir payer quelqu'un qui va les acheter, qui les cuisine. Et qui nous les dépose devant notre porte, voire même directement dans notre frigo. Donc et après, on a extrapolé Frishti à partir de cette vision-là, et surtout en partant non pas de la technologie qu'on voulait créer, mais du service idéal qu'on avait envie, nous, en tant que clients. On a sondé des amis, on a vraiment défini ce qu'on voulait en termes de qualité, de diversité, de positionnement, prix. Et ensuite, on a rétropédalé bien après en construisant toutes les briques technologiques qui rendent cette équation-là possible. Mais initialement, on est parti du client, de son besoin, de ce qu'on avait envie de créer comme solution, et en s'assurant qu'un jour, ce serait possible de faire tenir le truc économiquement, et en le lançant, surtout en le lançant très vite, puisqu'on a lancé Frishti au bout de 2 mois seulement de travail et d'itération. On s'est dit, on a très envie d'aller se confronter à nos clients avec un premier produit et ensuite de finir l'itération et la construction du service avec les retours clients. C'est un peu ce que tu me disais sur ta marque de lingerie, que tu veux sonder ta communauté pour savoir quels sont leurs besoins. Et on a exactement la même vision chez Frishti. On construit notre service et encore aujourd'hui avec nos clients. Aujourd'hui, on a tout un département qui s'appelle Listen, qui est dédié à faire des focus group et à écouter les clients, soit à travers des focus group quali, soit à travers des surveys, des études quanti. Et il se passe pas un jour sans qu'on n'écoute pas nos clients, qu'on lise pas au minima une centaine de retours clients. Enfin, c'est une obsession dans la culture de la boîte.
Et je me demande, j'essaie de m'imaginer à votre place au tout début de l'aventure Frishti, est-ce que ça t'a pas fait peur, ce côté très opérationnel? Parce que, encore une fois, là, on peut avoir l'idée d'un projet qui nous botte à fond, mais le quotidien n'est pas forcément hyper agréable, tu vois. Donc après, c'est un peu deux écoles. Il y a un peu ceux qui, dans tous les cas, l'idée leur plaît tellement qu'ils sont prêts à endurer, tu vois, la difficulté du quotidien. Et d'autres qui, du coup, bah, essayent et se rendent compte qu'en fait, ils peuvent pas gérer la logistique, enfin, tout ce qui est très exécution. Mmh. Donc bon, vous, je pense, comme vous avez levé des fonds assez rapidement, peut-être vous avez pu, comme ça, engager des équipes. Mais est-ce que après avoir défini ce service idéal, quand tu t'es rendu compte de toute la tâche que ça allait être, parce que niveau opérationnel, quand même, c'est quelque chose, tu t'es pas dit, ah non, c'est trop, ou c'est pas pour moi, ou non, tu t'es juste dit, ben, ok, c'est ambitieux, mais I mean.
En fait, premièrement, je pense qu'on a pas du tout anticipé la complexité opérationnelle que ça allait représenter de scaler la boîte et de la faire grandir à l'échelle à laquelle on est aujourd'hui. Et que heureusement qu'on l'avait pas anticipé, parce que si on l'avait anticipé, je pense qu'on aurait fait marche arrière direct. Et donc, tant mieux. Heureusement, faut pas tout calculer dans la vie, quoi, parce que sinon, tu fais rien.
C'est vrai.
Et puis, par ailleurs, sur l'excitation opérationnelle, nous, ça, je pense qu'avec Quentin, c'est parmi nos plus beaux mois/années chez Frishti, c'est le début. C'est-à-dire voir tes idées se concrétiser, sortir de terre, fonctionner, prendre, petit à petit recruter une petite équipe qui te suit, qui, franchement, on n'a aucune raison de te suivre parce que t'es dans une cuisine pourrie avec des bureaux qui sont au milieu de paquets de pâtes. Enfin, c'est, tu vois, mais qui pour autant croient en ton projet et croient que ça peut devenir grand. Fallait quand même y croire et on t'embarque petit à petit des gens, des investisseurs, des personnes de l'équipe. En fait, c'est d'une excitation extraordinaire et tu partages des moments avec une petite équipe. Voilà que tu repartages, enfin que tu retrouves plus forcément après. Ouais. Après, c'est une plus grosse boîte, c'est génial de voir l'aventure scaler et il faut définir une culture d'entreprise qui permet de se rassembler, de garder ce lien humain. Mais au contraire, moi je trouve que, adoré les premiers mois de Frishti.
Ouais, l'énergie très est quand excitante. Même très belle au début.
Ouais, l'énergie.
Il y a tout à faire quoi.
En fait, il y a tout à faire et tu peux tout changer. Quand une boîte, nous aujourd'hui, on a 350 salariés et on doit apprendre à justement arrêter de penser que on peut tout changer en une semaine. Ce qui a toujours été notre motto chez Frishti, mais maintenant, on doit garder un rythme d'innovation extrêmement soutenu, parce que sinon, on tient une grosse boîte et on n'a plus vocation à être. Mais un rythme d'innovation plutôt à 3 mois qu'à une semaine. Quand t'es une petite boîte, t'as 10 personnes, tout le monde se mobilise et en une semaine, 2 semaines, tu peux tout changer, tout reconstruire, faire des trucs incroyables que tu peux plus faire ensuite. Donc c'est en fait c'est vraiment des phases ultra différentes et je trouve que chaque phase est super intéressante.
Ouais.
Mais la première est vraiment excitante.
Quels sont les enseignements que tu as retirés comme ça, on va dire des 3-4 premiers mois? Qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir peut-être aussi?
Je réfléchis. En fait, c'est un peu similaire à maintenant, c'est l'importance de l'équipe. Tu fais rien tout seul. L'importance d'avoir des gens qui te suivent et de confier des vraies responsabilités. Nous, c'est ce qu'on appelle en interne l'ownership. Voilà. Les gens sont tellement plus épanouis, intelligents dans leur manière de faire les projets s'ils se sentent responsables du résultat et vraiment empowered des décisions. Ça, c'est très important et je pense que ce qu'on a beaucoup appris de manière continue sur toute la période, là, les 5 ans, c'est apprendre à mieux se connaître, Quentin et moi, mieux connaître la culture de la boîte, mettre des mots sur la culture de la boîte qui est quand même très particulière parce que, oui, on gère beaucoup d'opérationnels, donc on est un peu à cheval entre une boîte tech, une boîte logistique, une boîte de restauration. C'est assez particulier, c'est très riche parce que ça mêle des métiers très divers et des cultures très diverses. Ce qu'on a appris, c'est à mieux recruter, tu vois, s'entourer de gens qui sont hyper alignés avec la mission de la boîte, qui y croient et qui ont la personnalité pour s'épanouir dans la culture de la boîte. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et quelque chose sur lequel on a beaucoup appris depuis 5 ans.
Et comment justement arriver à responsabiliser chacun individuellement, parce que pour les postes à haute responsabilité, je peux l'imaginer assez facilement, mais ça peut être plus difficile, quoi, comme tu dis, quand il y a 350 personnes. Comment tu arrives à transmettre ce sentiment d'ownership?
Ça ne concerne pas les 350 personnes, mais ça peut concerner par exemple des stagiaires qui sont responsables de projets transversaux et qui vont être patrons d'un projet. En gros, c'est fonctionner. Il y a des rapports hiérarchiques et puis il y a des projets. Et quand tu as l'ownership d'un projet, et ben c'est toi qui le mène au bout. Tu connais l'objectif que tu vises. Si tu as envie de remettre en question des choses établies ou de prendre des décisions, à partir du moment où tu les justifies, t'expliques ce qui te pousse à faire ces choix, il faut pas, t'es pas bien en tête, je décide que c'est bleu et ça va être bleu, il faut pouvoir l'expliquer. Mais on confie vraiment le projet et son objectif et ce à quoi il sert et ce qu'on vise comme résultat.
Confier des missions, en fait, assez importantes.
Ouais, exactement. Confier des missions et en fait confier le but, le why. Pas des listes de tâches, quoi. C'est voilà à quoi ça sert, voilà du coup. En fait, t'es responsable du résultat. Quelque part, le projet ne fait que servir le résultat que tu cherches à atteindre. Mais tu dois obtenir le résultat et c'est ça qui doit t'animer. Et donc si au milieu du truc, comme tu vises le but, parce que si au milieu du truc, tu dois prendre un raccourci ou changer de chemin parce que tu estimes que c'est plus intelligent, tu le fais. Alors que si on te manage en te donnant toujours la prochaine étape, mais que tu vois pas où est le but final, tu peux pas prendre de décision par toi-même et t'es à la tâche, quoi. C'est pas très intéressant.
C'est moins stimulant.
Ouais.
Et est-ce que t'arrives encore aujourd'hui à dégager du temps, justement, pour échanger avec tes équipes, peut-être les rencontrer, recueillir du feedback, parce que tu nous raconteras peut-être un peu ton quotidien, mais ça doit pas être évident, quoi. Plus tu grandis, moins on a de temps, en fait.
Ah non, au contraire. Plus tu grandis, plus t'as de temps, en fait.
Ok.
Le but, c'est... je pense qu'un des bons CEO, c'est des gens qui arrivent à scaler leur temps et à correctement déléguer, qui est quelque chose qu'on a aussi beaucoup appris et qu'on faisait moins au début de Frishti, si je dois tirer un autre enseignement. C'est clé, et si tu veux te dégager du temps à justement... pour moi, le rôle du dirigeant, c'est de donner de la vision, de donner des directions stratégiques, de valider ensuite les roadmaps stratégiques des équipes et ensuite au quotidien de venir coacher ces équipes dans la réalisation des objectifs, mais eux, les équipes, restent honneurs des résultats de ces roadmaps stratégiques. Et donc en fait t'es censé faire très peu de choses, tu es là pour définir une vision et ensuite coacher derrière les gens.
Et ça te fait pas trop bizarre après avoir fait beaucoup pendant des années ?
Si, mais c'est ce que je te dis, c'est une autre phase. Ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. Chaque phase, en fait, est excitante et puis a ses défauts aussi. Donc, ça a été un long apprentissage. Enfin, c'est petit à petit que ça s'est fait et aujourd'hui... On se rend compte, comme je te disais au début, que c'est ce qui fera réussir la boîte, en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est de se dégager de l'opérationnel parce que ça te permet d'être un meilleur leader et ça te permet aussi à tes managers de t'épanouir et de prendre plus d'espace et de se sentir sans filet. En fait, si tu as des gens en dessous de toi qui se sentent toujours avec un filet de sécurité parce que tu vas leur expliquer que 1 plus 1 égale 2 et qu'ils font une bêtise là et que globalement, du coup, ils se ressentent pas ce frisson de se sentir responsable. Et c'est ce frisson-là qui, je pense, t'emmène plus loin et te fait faire l'extra mile de réussir quelque chose, en fait. Donc nous, on essaye vraiment de je dis pas qu'on est parfait, mais de développer cette culture entrepreneuriale très très forte dans la boîte.
Comme j'imagine que chaque journée est différente pour toi, est-ce que, par exemple, tu peux nous dire cette semaine, quelles sont un peu les grandes activités qui t'attendent et pour mieux imaginer justement après 5 ans à quoi ressemble le quotidien d'une CEO ou en tout cas d'une CEO de Frishti.
Ouais, alors déjà on se répartit pas mal les tâches avec Quentin. Donc moi j'ai deux parties, on va dire, à mon job. Une première partie, c'est de représenter la boîte sur l'externe. Donc c'est pour ça qu'on se parle notamment aujourd'hui. D'expliquer quels sont nos combats, notamment autour de l'alimentation, de la responsabilité écologique, et de faire rayonner Frishti et sa mission comme ça. Ma deuxième partie, c'est ce qu'on pourrait appeler Chief Creative Officer, c'est-à-dire que c'est vraiment dédié à tout ce qui va toucher à la création de la boîte, c'est-à-dire à la fois la food. Qu'est-ce qu'on crée? Quels sont les projets qu'on priorise? Qu'est-ce qu'on va référencer? Qu'est-ce qu'on va créer en termes d'innovation food? Et la marque, l'image de la marque, comment on la fait vivre à travers... comment on exécute au quotidien toute notre communication. Donc c'est vraiment là-dessus que je me concentre. Et, Et donc ma semaine, par exemple, ça a été de beaucoup parler aux trois personnes qui gèrent ces équipes. Ces équipes-là, en ce moment, on est en pleine définition stratégique du prochain semestre. Mmh. Et donc, on est en train de pas mal réfléchir à comment on s'organise, quels sont les projets qu'on doit prioriser par rapport aux gros projets de la boîte. Et puis enfin, j'ai un temps que j'ai pas cité, mais qui est beaucoup d'échanges avec Quentin sur la direction, effectivement, la vision un peu globale dont je parlais de la boîte, le fait d'updater nos investisseurs, de s'assurer que la boîte est correctement financée. C'est Quentin qui a le lead sur le sujet, notamment financement, mais on co-définit la vision et on se challenge beaucoup sur la stratégie globale et les bons choix à faire pour Frishti dans l'année ou les deux ans à venir.
Est-ce que, pour toi, plus Frishti grandit, mieux ce sera? Ou, pour toi, big is not always better?
Je pense que dans plein de cas, big is not always better. Après, nous, chez Frishti, on a une ambition claire et affichée depuis le début, c'est d'être big. Parce que, pour plein de raisons. La première, c'est qu'on a très envie d'avoir un impact sur l'écosystème agroalimentaire. On pourra y revenir, mais... On est convaincus, en tout cas, depuis le début, qu'on n'a pas envie de faire un service de niche destiné uniquement aux CSP++, qui peuvent se permettre d'acheter des bons produits. On a envie de rendre le bien-manger possible au quotidien pour tous. Mmh. En tout cas, on s'adresse principalement aux urbains. Donc, depuis le début, l'ambition, elle est forte et elle est d'aller toucher pas mal de monde. La deuxième raison, c'est que tout simplement notre modèle économique nécessite d'avoir beaucoup de clients pour être fonctionnel. On a créé beaucoup d'infrastructures, des cuisines, un service de livraison dédié. Ce modèle qui est verticalement intégré ne fonctionne, avec en plus des prix très accessibles, ne fonctionne que s'il y a beaucoup de clients pour pouvoir le faire tourner, avoir des produits frais, amortir les coûts d'infrastructures qu'on a créées, etc. Mmh. Donc pour ces deux raisons-là, mais avant toute chose, parce qu'on l'a décidé depuis le début, que ce serait big, ça reste notre ambition et ce qu'on met en œuvre tous les jours. En revanche, il y a plein de projets géniaux notamment, je crois beaucoup au local. Mmh. Le local, par essence, ça doit rester des projets nichés sur des périmètres géographiques et donc, forcément plutôt small, et small is beautiful. Donc, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais dans notre cas... les ambitions sont assez importantes.
Et est-ce que ça te fait pas peur parfois, ou est-ce que tu te sens pas dépassée? Et si oui, qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là?
Je pense que des moments de dépassement, de découragement potentiel, de on n'y arrivera jamais, etc., on en a eu plein. Ce qui est pas mal quand t'entreprends à deux, c'est qu'en général, c'est pas au même moment que ton associé. C'est pour ça que moi, je me voyais pas entreprendre seule aussi, entre autres, mais... je pense que d'avoir un binôme ou un trinôme, ça aide vachement à ce qu'il y en ait toujours un pour tirer et redonner de l'optimisme. Parce que l'entrepreneuriat, tu te prends des portes et des portes et des portes. Et donc, il faut avoir le cœur.
Ouais, les deux.
Les deux. Hyper, hyper bien accrochés. Donc je pense que, Quentin, on s'aide beaucoup mutuellement quand il y en a un qui a un petit coup de down. Et puis récemment, depuis à peu près un an et demi, on se fait coacher en management. Et c'est super parce qu'effectivement, quand tu es dirigeant d'entreprise, même quand tu as un associé, tu peux parfois te sentir un peu seul face à tes enjeux et à tes responsabilités. Et ça nous aide énormément. On a vraiment trouvé quelqu'un de super. Donc, ça nous aide à travailler aussi sur nos points faibles, parce qu'on en a tous, Et en fait, quand t'es dirigeant d'entreprise, y a pas beaucoup de gens qui te font du feedback. Donc, même si on l'encourage,
faut oser dire ses cas de vérité.
Ouais, exactement. Mais il faut aussi avoir un regard ultra critique sur soi-même. Et après, derrière, pour essayer de travailler ses points et s'améliorer, c'est pas mal d'être coaché. Mmh.
Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Bon, y en a plein. Mais je pense que un des conseils, c'est intéressant, je pense, à partager, c'est start, form, de finish. C'est-à-dire qu'il faut viser l'endroit où tu vas et ensuite rétro-pédaler sur le plan pour y aller, plutôt que de prendre les petits problèmes les uns après les autres et d'oublier presque où est-ce que t'allais, quoi. Et ça, c'est bête, mais c'est... Ça permet de pas te noyer et je pense pas qu'un projet puisse devenir ambitieux. Je pense que soit t'as une ambition claire depuis le début et puis tu vas tout mettre en œuvre pour y arriver. Mais je crois pas trop à on se laisse couler et fait boule de neige. Voilà, je crois beaucoup aux prophéties autoréalisatrices. Après, il faut plein de choses derrière, de la détermination, de la chance,
du travail.
La volonté voilà, du travail, la volonté fait pas tout, mais je pense que voilà, il faut être clair sur là où on va et on peut beaucoup orienter son destin.
Il y a des livres qui t'ont aidé un peu comme ça dans cette réflexion ou même dans ta vie perso, à être peut-être plus...
Alors, je suis extrêmement mauvaise en conseil lecture entrepreneuriale parce que je ne lis pas du tout de livres là-dessus. Mais ce qui n'est pas bien, honnêtement, je n'ai pas une fierté. Je lis parfois des articles.
Ouais, je trouve que parfois, il y a des livres qui n'ont rien à voir et qui nous en apprennent tout autant,
vrai.
Tu vois, c'est pas...
En fait, moi, je lis beaucoup, mais des romans. Ouais. Donc, c'est mon échappatoire. Mmh. Donc, j'ai toujours énormément lu. Mais c'est vrai que dès que j'ai des sujets un peu plus théoriques sur le management, je sais pas, ça passe pas, je me fais chier.
Ouais, non, mais je suis d'accord. Moi, je suis une grande... Enfin, j'adore les romans. C'est ce que j'ai commencé à lire, tu vois, quand j'étais enfant. Donc, j'ai un attachement hyper fort. Et j'ai même eu du mal avec la littérature quand on me l'a imposé, tu vois. Et au final... En fait, ouais, les livres de management, d'entrepreneuriat, développement personnel, je préfère les écouter.
Oui.
Et les podcasts, c'est un peu ça, tu vois.
Ouais.
Et au début, on me conseillait d'écouter des livres audio sur le sujet. Et j'étais en mode, comme je suis une grande lectrice, là, non mais jamais j'écouterai des livres audio. Moi, je veux tourner les pages d'un livre et tout. Mais au final, j'écoute tellement de podcasts. Du coup, je me dis, les romans, je crois que je pourrais jamais les écouter. Il faut que je les lise. Mais les livres entrepreneuriaux, de développement personnel, tout ça, je pense que ça peut s'écouter.
Ah mais t'as raison, je devrais essayer effectivement parce que c'est vrai que le format visuel, je sais pas, alors que je suis une grande lectrice,
Enfin, quand on est habitué au roman et qu'on aime ça, on recherche autre chose quoi. Ouais. Comme tu dis, on recherche l'échappatoire, le rêve, la fiction, pas forcément la réflexion que donne un livre théorique.
Après, du coup, moi j'aime bien le format article plus, où ça m'arrive très souvent de lire des articles, donc c'est plus court. C'est plus straight to the point, on va dire. Y a pas mal d'entrepreneurs qui partagent des médiums que je trouve... hyper intéressant, t'as notamment Jean-Charles Samuelian, qui est un de mes amis, qui écrit pas mal sur l'entrepreneuriat, c'est le CEO de Alan, ou pareil, une amie qui est CEO de Front, qui est une boîte américaine, qu'elle a été développée à San Francisco, qui écrit des trucs sur la culture d'une entreprise, comment l'organiser, franchement, mais elle est impressionnante. Donc j'aime bien lire le contenu d'autres entrepreneurs, notamment sur Medium. Et Medium, c'est un endroit en plus où tu peux rentrer tes thèmes de prédilection et directement ça te sort des articles vraiment intéressants. Et je lis beaucoup d'articles américains sur l'univers de la food, les innos qui se passent là-bas. Je trouve ça hyper intéressant.
De rester
les yeux ouverts exactement sur ce qui se fait notamment aux États-Unis et en Chine où ils sont plus avancés qu'en Europe sur les innovations, enfin la food tech, on va dire.
Est-ce que ça t'a aidé de t'entourer d'entrepreneurs? Est-ce que c'est quelque chose que t'as recherché au fur et à mesure de l'aventure Frischti?
Ouais, carrément. Il y a trois personnes qui ont d'ailleurs été business angels pour Frischti et qui ont été toutes très importantes. T'as Pierre Valade qui, pour le coup, est une de mes sources d'inspiration principales. Il le sait, je lui fais trop de compliments, mais voilà, qui est quelqu'un qui m'a vraiment, chez qui j'avais fait mon premier stage en tant qu'étudiante, qui a toujours été entrepreneur, qui est lui vraiment un entrepreneur du web. C'est quelqu'un du produit, de l'UX, et qui design des expériences utilisateurs absolument fabuleuses et qui a une vision, d'une entreprise et de sa mission absolument géniale. Donc, il a été quelqu'un hyper important pour moi dans mon parcours et qui, même quand parfois j'ai pu avoir même un peu de phase de découragement, en plus a été là en tant qu'ami et en tant qu'investisseur pour me dire à quel point le service était génial et à quel point il fallait que je m'accroche, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment, est vraiment très important pour moi. Et il y a deux femmes qui ont beaucoup compté aussi, puisque là encore, elles ont été business angels. C'est Céline Lazorte. C'est la fondatrice de Litchi, qui est une des premières femmes à avoir entrepris dans le web en plus, et qui est vraiment un rôle modèle pour plein de femmes entrepreneurs. Et qui a des super conseils très pragmatiques sur la gestion d'une boîte, la culture, les PR, enfin, voilà. C'était très intéressant de réfléchir avec elle. Et enfin, Céline Lazort, qui est une des cofondatrices de My Little Paris, qui en est maintenant l'ADG.
Céline Orjubin, non ?
Excuse-moi, ouais. Céline Orjubin. J'ai redit Céline Lazort, ouais. Donc Céline Orjubin. Et qui est quelqu'un d'extrêmement inspirante sur tout ce qui est histoire de marque, comment créer un univers, comment raconter des histoires intéressantes avec des aspérités. Elle a été aussi à un moment donné de l'aventure Frishti, de très très bons conseils. Donc voilà un peu les trois entrepreneurs qui ont été vraiment importants dans l'histoire de Frishti. Et de manière plus large, je trouve ça toujours très intéressant et très instructif de discuter avec des entrepreneurs. Et c'est incroyable de voir à quel point les problématiques sont communes, surtout à des entrepreneurs qui ont le même stade de développement que toi. Pas forcément le même secteur, mais en fait, les problématiques se posent au même moment en fonction de ton stade de financement, même ta taille en termes de nombre de salariés. Tu vois, tu rencontres un peu les mêmes problématiques et c'est super intéressant toujours de. Tu retires beaucoup à discuter avec d'autres entrepreneurs.
C'est vrai, ça peut vraiment faire gagner du temps. Et est-ce que tu arrives justement à continuer à dégager du temps pour apprendre et même pour progresser ? Parce que je trouve que voilà, quand on a beaucoup de choses à abattre au quotidien, ça peut être difficile. On peut très vite tomber dans l'engrenage et plus prendre ce temps qui, je pense, est hyper nécessaire, quoi, que ce soit pour réfléchir, pour apprendre, pour approfondir.
Avec ce fameux coach en management, c'est vraiment un temps dédié d'une heure par semaine. Donc ça aide pas mal à prendre du recul sur où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a progressé, et comment on a géré son temps, etc. Et après, moi, j'essaye de rester très ouverte sur le monde, rencontrer beaucoup de gens. La stratégie de Frishti, j'ai besoin de m'inspirer et de regarder ce qui se passe dans le monde pour sentir l'air du temps et faire les bons choix aussi, quoi. Et du coup, à travers ça aussi, sentir les clients. J'essaye de garder des antennes connectées sur le monde un peu tout le temps. Et après, mon principal objectif, ça reste de faire progresser Frishti avant de me faire progresser moi-même. Je reste focus sur qu'est-ce qui va faire progresser la boîte, ses objectifs, les équipes. Et in fine, si tout ça se passe...
Toi, t'as l'impression de progresser aussi.
Exactement.
Ok. Et du coup, est-ce que t'as des routines ou des pratiques que tu mets en place justement pour Frishti continuer à progresser ? Je sais qu'il y en a qui font des sessions de brainstorm, il y en a qui font des week-ends d'entreprise. Ou alors, est-ce que c'est juste au quotidien, quoi, vous faites en sorte de recueillir les idées ? Mais je trouve que le processus... créatif et toujours hyper intéressant, souvent très différent d'une boîte à l'autre. Donc pour savoir comment vous faites en sorte que Frishti ne stagne pas.
Alors on a des temps de stratégie, donc on utilise une méthode qui s'appelle OKR et ça veut dire que chaque trimestre on va définir des objectifs, une vision qui découle de la vision annuelle et chaque équipe va retravailler sa stratégie pour les 3 mois à venir. Quelque chose qu'on a fait assez récemment, c'est qu'on a aussi décidé de séparer en deux les équipes qui, ce qu'on appelle run, ça veut dire exécute au quotidien parfaitement l'entreprise. Et on a beaucoup, beaucoup d'opérations et d'enjeux opérationnels. Et donc, il faut des gens dédiés à ce que, globalement, notre boutique soit propre, ouverte, avec la bonne nourriture à l'intérieur. Et c'est pas des équipes, non pas parce qu'elles peuvent pas, mais parce qu'elles ont pas le temps et que c'est pas sain de se concentrer sur deux choses à la fois qui peuvent, du coup, développer des projets. Et ceux qui développent des projets, ils doivent être concentrés sur développer le futur. Et même, voire même, du coup, penser qu'on peut détruire tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est ça, les bons projets, c'est de réfléchir sans contrainte. C'est ça, en tout cas, qui permet d'innover. Et tu peux pas à la fois exécuter au quotidien un truc qui existe, et puis en même temps te dire, en fait, dans 3 mois, je vais tout casser, etc. Donc les équipes opérationnelles, elles nourrissent les équipes projets, mais les équipes projets, elles ont vocation à travailler sur un temps un peu plus long. Et à travailler vraiment sur le temps long et avoir le temps de penser des projets qui ont de l'ambition et qui, parfois, vont même effectivement jusqu'à casser l'existant. Ça, je pense que c'est une distinction qui est très importante à faire à partir d'une certaine taille d'entreprise. Rester créatif, c'est aussi se laisser du temps pour l'être. Tu peux pas être créatif, là encore, avec une certaine taille, en pensant que maintenant, les projets vont être faits pour la semaine prochaine. Non, faut apprendre à réfléchir avec un peu plus d'avance. Et se structurer des temps pour le faire. Ça, c'est la troisième chose que je pense qui est très intéressante. C'est que si tu ne dédies pas du temps dans ton emploi du temps à la réflexion, tu ne le fais jamais.
Mmh, c'est clair.
Donc, il faut se bloquer des plages. Mmh. Les routines aident énormément. Le fait qu'on ait une routine trimestrielle de définition de la stratégie, ben, ça aide et voilà, ça permet à chaque équipe en dessous aussi de s'organiser pour se faire. S'il y a des routines qui sont aussi insérées au quotidien, chaque semaine, notamment chez des équipes plus créatives comme la food ou la marque. Mais c'est très important de se bloquer des plages dans son agenda, sinon tu ne fais jamais, tu ne fais jamais ce travail. Mmh. Et en fait, quand tu es un jeune entrepreneur, ou pas, mais tu peux avoir tendance à prioriser les sujets urgents, pas importants. Je m'explique, tu as une matrice où tu as les sujets urgents, pas urgents, importants, pas importants. Et en fait, et souvent, les sujets urgents, importants, ou urgents, pas importants, c'est des trucs un peu faciles à faire. Le truc administratif, tu dois renvoyer ton truc à ton comptable, etc. Mais en fait, c'est pas ce qui va faire réussir ta boîte. Et il y a des gens qui pensent qu'être entrepreneur, c'est passer la moitié, voire les trois quarts de son temps à faire des trucs de comptabilité, à être à l'heure sur si, ça, la déclaration d'aussi. Mais en fait, non, quoi. Enfin, nous, c'est vraiment toujours comme ça qu'on a géré Frishti. Alors après, t'es un peu... Évidemment, à un moment donné, il faut faire les choses. Mais en se disant, voilà, on peut tout laisser, tout, voilà. Rien n'est important si on a... Enfin, rien ne doit avoir d'importance si on ne gère pas le sujet important, urgent. Sinon, tu le fais jamais. Donc, à savoir, quand on définit la stratégie de la boîte avec Quentin, parfois, ça peut nous arriver de scratcher tous nos agendas pour la semaine, de tout annuler, parce que oui, il y avait des choses peut-être un peu importantes, mais moins importantes que ça, et on sait que ça va bloquer la boîte si on le fait pas. Et c'est vachement dur à faire, et ça, c'est Quentin le fait beaucoup mieux que moi, de sentir l'urgence d'une chose importante, alors que parfois, tu vas plutôt avoir tendance à
cocher une case
sur la to-do. Et en fait, c'est pas des choses qui vont vraiment faire réussir ta boîte.
C'est vrai que c'est dur de se rendre compte quand on a la tête dans le guidon.
Ouais, il faut prendre du recul et il faut se dire, bon, bah, est-ce que ça, je peux plutôt le faire ce week-end? C'est des trucs où ça va aller vite, je peux le faire un samedi matin. Et en revanche, qu'est-ce qui est important là? Un peu par peur de s'attaquer au sujet difficile. En fait, on en est un peu conscient, tu vois, quand on le fait. Mais non, bah, le sujet difficile, c'est de te mettre devant une feuille blanche et d'écrire ta stratégie. Ouais, c'est dur, mais il faut le faire. Parce que sinon, ta boîte avance jamais et tu te complais dans régler des petits détails opérationnels. Et je pense vraiment que c'est pas ça qui fait réussir une boîte.
Ouais, que t'as tout fait raison. Et bon, maintenant qu'on le dit sur le podcast, j'espère que plus personne ne procrastinera les sujets importants. Et est-ce que pour toi, à titre perso, t'as des routines, des habitudes ou voilà, des trucs sur lesquels tu ne fais pas d'impasse ou de sacrifice?
Je réfléchis, mais ouais, j'ai des routines qui jalonnent ma semaine, à savoir des réunions, ce qu'on appelle nous one-to-one en interne ou touch base avec les personnes qui enfin mes N-1, qui sont des moments très importants. Et je dirais que ça structure ma semaine. En fin de semaine, en général, j'essaye de faire un peu un bilan de mon temps et de où est-ce que je l'ai passé. Pour être sûr, justement, un peu prendre du recul et être sûr que rétrospectivement, j'ai passé mon temps au bon endroit. Ouais. Bon, ça, j'avoue, je le fais pas tout le temps, mais c'est vraiment, chaque fois que je l'ai fait, un exercice qui s'avère être super utile. Ouais. Parce que parfois, on se rend pas compte, en fait, où on passe son temps. Et donc, rétrospectivement, c'est intéressant si on peut l'analyser. Et après, le truc sur lequel je ne transige pas, c'est de m'occuper de mes filles le soir et de passer à minima une heure et demie avec elles. Parce que ça aussi, en fait, si tu te mets pas des bornes, bah, tu le fais pas. C'est un peu facile de demander à une babysitter de venir. Et en fait, non seulement je pense que c'est pas bien pour elle, mais en plus, j'en ai pas envie et j'ai envie de profiter d'elle. Et ça, je pense que c'est aussi des bornes à se mettre, et quitte à reprendre ton ordinateur à 22 ou 23 heures. Mais ça, j'essaye de pas transiger sur le temps que je passe avec elle.
Ça n'a pas été trop dur ce passage à la maternité, parce que moi je suis pas maman et je consacre tellement de temps à mes projets que si tu me rajoutes un enfant, je me dis vraiment, mais comment vais-je trouver ce temps quoi.
Alors, on m'a dit deux choses intéressantes quand je suis tombée enceinte et que j'ai eu du coup un peu peur de tout ça. La première, c'est que il y a jamais de bon moment pour avoir un enfant, donc à un moment donné, il faut y aller et il y aura toujours une excuse pour pas y aller, entre guillemets, donc c'est jamais le bon moment, donc faut y aller. Et la deuxième chose, c'est que en fait, ça fait tout un meilleur entrepreneur d'avoir des enfants. Et ça, je suis 100% d'accord avec ce principe, c'est-à-dire que à partir du moment où t'as un enfant, tu vas déjà prendre du recul sur tes projets et du coup réfléchir un peu plus posément. Et comme il y a quelque chose dans ta vie qui est plus important que ta boîte, Ça te permet de mettre à distance aussi le stress que tu peux ressentir parfois sur des décisions ou sur la gestion. Et du coup, d'avoir plus de sang-froid et du coup de prendre des meilleures décisions. Ça t'invite à mieux déléguer, puisque si tu veux passer quand même du temps avec ton enfant, et a priori tu en auras vraiment envie, et ben tu t'organises. T'apprends à faire davantage confiance, à moins regarder les détails, et à petit voir que ça fonctionne, et à davantage le faire, etc. Donc en fait, ça fait de toi un meilleur leader, puisqu'on disait au début que un bon dirigeant doit déléguer et s'appuyer sur ses équipes. Donc vraiment, moi, je l'ai constaté. Et en plus de ça, nous, comme on entreprend en couple, je dirais que ça rajoute une troisième dimension où, en tant que couple, ça nous refait un projet personnel vachement important. Et ça fait, voilà, c'était super important. Parce que la première année et demie, on n'avait pas d'enfant. Bah, c'était 100% dédié à Frishti, jour, nuit, week-end. Et bah, en fait, ça fait du bien de se forcer à. Ouais. Quand t'es entrepreneur et que t'as un conjoint qui ne fait pas ça, mécaniquement, bah, t'es forcé de te déconnecter à un moment donné, parce que sinon, bah, il va.
Ciao.
Clairement, ciao, quoi. C'est pas possible d'avoir quelqu'un qui jour et nuit pense qu'à sa boîte. Quand t'es ensemble, bah, y a rien qui t'impose de penser à autre chose ou de faire autre chose. Et c'est très malsain pour ton équilibre mental, pour ton équilibre de couple, etc. Donc en fait, ça a été super en fait.
Ouais, presque salvateur.
Ouais, bon, salvateur, je dirais pas qu'on était non plus au bord du précipice, mais non, ça a fait de nous des meilleurs entrepreneurs, vraiment.
Mais parce que moi, c'est une vraie question que je me pose, c'est à combien de temps on peut se donner à fond pour ces projets, tu vois. Parce qu'un an et demi, c'est long, vous avez pas, enfin, toi, t'as pas senti d'épuisement à un moment où...
Ah bah ça fait même 5 ans, hein, parce que on pourra faire un appel à un ami et demander à un copain, mais... On a un rythme quand même très, très, très soutenu, même encore maintenant. Et donc, en gros, globalement, forcément, tu peux pas tout faire. Donc, tu sacrifies un peu quelque chose.
Ouais.
Comme on fait vachement attention à passer quand même du temps avec nos filles, plus que notre boîte nous prend un temps très important, j'espère moins dans les années qui viennent, mais c'est encore en tout cas le cas, bah, tu sacrifies un peu ta vie sociale, tu sors moins, tu vois que tes potes très proches, parce que t'organises moins proactivement des choses.
Ouais.
Et ça, évidemment, qu'on a... En fait, on se dit... De toute façon, voilà, c'est un peu l'aventure de notre vie. Il faut qu'on la réussisse. On est motivé par le fait d'accomplir cette ambition. On voit le moment où on va moins travailler. Donc, tu vois, tu vois la lumière au bout du tunnel. Et donc, on se dit, comme on n'a pas cette ambition-là pour toute notre vie, bah, on tient jusqu'à ce que voilà, le projet soit vraiment une réussite, fonctionne sans nous et qu'on puisse... petit à petit, avoir un rythme un peu plus normal, voire même un jour, horizon, je sais pas, 10 ans, faire un tour du monde, prendre du temps complètement off, et puis même après, on aimerait bien même faire des trucs plutôt dans l'univers caritatif, qui seraient des projets entrepreneuriales, mais avec une visée vraiment différente. Donc voilà, on a plein de projets pour la suite qui n'impliquent pas du tout les mêmes choses que ce qu'on vit aujourd'hui, et pour autant, aujourd'hui, on est aligné avec le fait que notre premier objectif, c'est vraiment de faire réussir la boîte et de la pérenniser.
Ouais.
Et c'est ça qui nous motive, quoi.
Ouais, mais ça rejoint un peu ce que tu me disais tout au long de l'épisode, cette sorte de phase, quoi, et d'être aligné avec chaque phase. Et bon, après, être certain que... Enfin, ouais, c'est... Je pense, dans tous les cas, quand on se rend compte que ça nous épanouit plus, c'est peut-être qu'il est temps aussi de passer à une autre phase, quoi. Je t'avais demandé quel était le meilleur conseil qu'on t'a donné. J'aime bien aussi demander quel est le pire. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de conseils qui sont donnés et si on se rend pas compte en fait que ça dessert plus que ça ne sert, ça peut être dangereux.
C'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question. Franchement, ouais, bah peut-être un qui est mais qui est encore là sur une entrepreneuriat en couple, mais il faut absolument séparer sa vie privée de sa vie personnelle. Et ça, je pense que ça n'existe pas dans l'entrepreneuriat. Enfin, moi, j'ai pas trouvé la clé. Peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui arrivent très bien. Mais a fortiori, en plus, quand on entreprend en couple, ça n'existe pas de laisser sa boîte à la porte de la maison, en fait. C'est pas possible. Donc, ça, c'est un mauvais conseil parce que ça va vraiment polariser des tensions. Tu vas te dire, tu vas culpabiliser, te dire, j'y arrive pas, pourquoi j'y arrive pas. Donc, en fait, il faut être sain dans ta tête et évidemment à faire autre chose et aller s'aérer l'esprit. Et garder un équilibre familial notamment. Mais en revanche, avoir un peu des règles, des dogmes comme ça, j'y crois pas du tout.
Ouais, je pense que chacun est différent et comme tu dis, faut pas se culpabiliser parce qu'on se reconnaît pas dans un adage, quoi.
Ouais, absolument. Et en l'occurrence, celui-là, je vois quand même difficilement comment il peut être mis en œuvre quand t'entreprends en couple, en tout cas.
Si on te donnait une feuille et un papier et que tu pouvais y inscrire ton meilleur conseil ou en tout cas ce que t'aurais envie de partager aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que t'écrirais ?
J'écrirais No Ego, qui est vraiment le premier principe de la boîte, c'est-à-dire que je pense qu'en tout point, il faut avoir zéro ego si tu veux réussir une entreprise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà, quand tu lances un produit, être hyper à l'écoute de tes clients et des résultats. Si tes clients te disent bah, « ça me va pas », il faut que tu changes. Ou « ça, tel truc me va pas », il faut que tu changes. Si ton projet marche pas et que t'as pas les chiffres que tu t'étais fixé, il faut se fixer un peu des objectifs de départ. Bah, il faut que tu pivotes, il faut que, ou peut-être que c'était juste la mauvaise idée, et il faut que t'aies l'honnêteté intellectuelle de te le dire. Il y a beaucoup de gens qui s'aveuglent un peu et qui se disent non, mais ça marche pas parce que, bah, en fait, on a lancé, il faisait mauvais, on a lancé, les photos étaient pas canon, donc maintenant on va prendre un mois de plus pour faire des belles photos, etc. Et en fait, c'est se mentir, enfin, c'est, et ça te fait perdre beaucoup de temps, quoi. Et surtout, à terme, tes investisseurs, bah, ils regarderont les, enfin, si tu veux lever des fonds, par exemple, ils regarderont les chiffres et eux, ils se mentiront pas. Il y en a que toi qui resteras à la tête menti tout seul, du coup, sur ton projet. Je pense que tu peux pas être suivi dans ton aventure si en plus t'es pas hyper intègre, transparent, honnête vis-à-vis du projet, vis-à-vis de toi-même, que tu sais pas aussi te remettre en question parce que tu vas demander aux gens de beaucoup se remettre en question. Et je pense que ce qui fait l'intérêt d'une start-up par rapport à une grosse boîte qui est infiniment mieux financée et qui recrute des gens infiniment intelligents, parce qu'ils ont beaucoup de moyens pour les payer, la chose qui permet aux start-up d'exister, c'est de savoir innover et se remettre en question en étant complètement apolitique. Si tu commences à devenir politique et que t'as peur de froisser la personne d'à côté en lui disant « Désolé, en fait, ta photo, elle est moche », ou « Ton texte, il est mal écrit », ou « Ça, on l'a fait, il y a un mois, j'y croyais, mais j'y crois plus, regardons, tu vois, ça marche pas », bah en fait, tu t'ankyloses dans un truc où tu fais les choses pour faire plaisir aux gens plutôt que pour faire plaisir à tes clients et pour faire réussir la boîte. Et ça, je pense que ça peut... Mais ça, c'est pas que ça, ça tue direct une entreprise. Les seules raisons d'être d'une start-up, c'est justement son apolitisme et c'est ce qui lui donne cette capacité d'innover beaucoup plus vite qu'une grosse entreprise.
Ouais, c'est hyper précieux. Je vais te poser du coup les deux dernières questions signature du podcast. La première, c'est si tu pouvais entendre quelqu'un sur ce podcast, qui est-ce que tu aimerais entendre ?
Alors, j'aimerais beaucoup entendre... Bon, réfléchis parce qu'il y a plein de noms qui me viennent en tête.
Bon, tu peux en dire plusieurs.
T'interroges que des femmes ou aussi des hommes ?
Ah non, tout le monde, ouais.
D'accord. Donc, j'adore Pierre Valade. Donc, je te parlais... Je pense que c'est un entrepreneur de génie qui, pour plus, réfléchit beaucoup sur comment gérer une boîte, une équipe. Voilà, je pense que ce serait une super personne à recevoir. Il est très positif et très inspirant. Et une plus jeune entrepreneur, on va dire, mais que j'apprécie énormément, qui s'appelle Camille Le Gall et qui a cofondé une entreprise qui s'appelle Fairly Made. Et je pense que vous entendriez très bien parce que c'est dans le domaine aussi de la mode.
Et du
sourcing responsable. Ouais. Donc elle a co-créé cette boîte et c'est une boîte qui vise à créer un label pour permettre aux marques de mode de sourcer les matières de manière beaucoup plus responsable et mesurer leur impact de la fibre de coton jusqu'au bouton et jusqu'à la livraison évidemment. Et donc derrière elle permet de certifier des usines tout en mettant en relation les marques de mode avec des usines dont elle a responsable. Et vraiment, son but, c'est d'accompagner les marques à responsabiliser leurs approvisionnements et leurs matières. Parce que tu dois mieux le savoir que moi, mais l'industrie textile est l'industrie la plus polluante du monde. Et je trouve son projet absolument extraordinaire. Parce qu'elle a su en plus convaincre des très grosses marques. Et ce qui est génial, c'est que le monde est en train de changer, les consommateurs veulent du responsable. Donc même les grosses marques s'en rendent compte et du coup mettent la responsabilité au cœur de leur nouvelle démarche. Et donc à la fois, elle accompagne des marques émergentes qui se positionnent exclusivement sur le secteur du responsable, mais aussi elle aide des marques plus établies à transitionner vers un sourcing beaucoup plus responsable. Tout en essayant de maintenir des coûts acceptables. Parce que ça reste une dimension hyper importante pour les marques. Donc il y a quand même un certain pragmatisme aussi où elle essaye vraiment de les accompagner et d'aller au bout. Voilà, donc je pense que elle serait très intéressante à interroger.
Ok, bah super, deux super recommandations. Et du coup, ma dernière question, c'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ?
Prendre le pouvoir de sa vie, pour moi, c'est avoir confiance en soi et penser que ce qu'on dit n'est pas bête, ce qu'on dit est intelligent, qu'on est peut-être le meilleur pour accomplir un projet, que ses idées ont de la valeur, que ses intuitions comptent, qu'on mérite d'être bien rémunéré et de le dire, que voilà, quand on parle, voilà, ce qu'on dit doit être entendu. Voilà, c'est vraiment avoir confiance dans ce qu'on est et dans son intelligence pour contribuer à un projet, soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant que collaborateur. Et je pense qu'on est, voilà, quand on a confiance en soi, on ose beaucoup plus de choses et c'est à ce moment-là que les portes s'ouvrent. Et c'est incroyable. Moi, franchement, ça ne se voit peut-être pas, mais j'ai pu avoir des enjeux de confiance en moi, même encore parfois aujourd'hui. Et je me rends compte que quand on travaille dessus et qu'on a confiance en soi, qu'on s'écoute, mais on est suivi en fait, on est écouté, on est et on fait tellement, tellement de choses. Mmh. Donc vraiment, je pense que c'est le conseil. Ça demande, quand on l'a pas de manière inhérente, ça demande quand même beaucoup de travail sur soi. Mais débloquer ça, ça ouvre des portes assez extraordinaires.
Super. Bah, merci beaucoup, Julia, pour cette conversation hyper enrichissante. Pour les personnes qui nous écoutent, qui souhaitent en savoir plus sur toi, sur Frishti, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ?
Bah, tu peux les rediriger vers mon LinkedIn, où je partage souvent les différentes interviews que je fais, les posts de Frishti sur l'actualité.
Ouais.
Voilà, on a aussi un super Instagram qui parle plus, pour le coup, de nos actus food. On vient de lancer un marché des produits en direct producteur, donc livré chez soi. Voilà, je pense que c'est les deux lieux où trouver plein d'infos.
Ok, super, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Et écoute, j'espère à très vite.
Et bien, moi aussi, c'était super. Merci beaucoup de m'avoir invitée.
Merci de vous être rejoint à notre conversation avec Julia. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram en nous taguant @frishti et @mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à deux amis qui le pourraient intéresser et découvrir les autres épisodes que vous n'avez peut-être pas encore écoutés. Si vous avez aimé celui-ci, je pense que l'épisode avec Nina Métayer, élue meilleure chef pâtissière du monde, pourra vraiment vous plaire, ou également celui avec le chef Juan Arbelaez. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, c'est peut-être que l'épisode vous a plu ou inspiré, et si c'est le cas, j'en suis vraiment heureuse. Et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com.